Chapitre 79. Pour que ma mère ne puisse pas les apercevoir, je serre mes faux questionnaires de syndic contre moi. Elle ouvre la porte d'une chambre de jeune fille. Ne faites pas attention au désordre, vous savez comment sont les enfants. Je sais au moins comment sont deux des siens. Inès, appelle-t-elle. Une voix venue de la salle de bain attenante répond.
Quoi ?
Ton prof de maths est là. Elle m'effleure le bras et me dit à voix basse. Je vous fais confiance, évaluez-la et donnez-moi franchement votre avis. C'est la première fois qu'elle me touche depuis qu'elle a quitté notre maison. N'a-t-elle rien senti ? Pas même l'étrange frisson qui m'a parcouru ? Elle tourne les talons et m'abandonne dans la chambre de ma demi-sœur. Super bizarre. J'étais prêt à baratiner n'importe quoi sur les parties communes ou les poubelles, mais par un nouveau tour dont le destin le secret, je me retrouve en tant que soutien scolaire de l'enfant que ma mère a eu avec un autre que mon père. Accroche-toi, Adrien. Dis-toi que ce qui ne te tue pas t'occupe en attendant d'y passer. J'étudie la chambre. Ayant grandi avec un frangin, je n'ai pas l'habitude de ce genre d'environnement aux couleurs assez vives. Des peluches partout, des posters au mur, des souvenirs, quelques livres et un grand panneau de liège au-dessus du bureau. Il y a plus de vie dans cette pièce que dans tout le reste de l'appartement. Ma demi-sœur aime les animaux, milite pour l'environnement et, à en juger par les quelques vêtements qui traînent, adore le vert émeraude. La porte de sa salle de bain s'ouvre. Je m'attendais à voir apparaître une enfant, mais c'est déjà presque une jeune femme que je découvre. Terriblement jolie. Elle est surprise. Est-ce parce qu'elle tombe sur un inconnu dans l'espace très personnel que constitue sa chambre? Ou parce qu'elle me trouve plutôt âgée pour un étudiant qui donne des cours particuliers? Je bafouille. Pardon pour l'intrusion, c'est votre mère qui m'a demandé de vous attendre ici. Pas de problème. Elle me tend la main alors que je lui adresse un salut qui veut faire jeune. On hésite maladroitement, sans savoir comment nous y prendre. On partage au moins un sourire face au ridicule de la situation. Elle m'invite à prendre place à son bureau en m'offrant sa chaise pivotante. Elle dégage ensuite le sac posé sur un tabouret qui imite un fût de déchets toxiques et s'y installe. Un bureau est toujours très révélateur. Celui d'Inès me fournit énormément d'informations, particulièrement le panneau de liège où elle a punaisé beaucoup d'indices. Elle éprouve une fascination pour la Nouvelle-Zélande, collectionne ses anciens tickets de cinéma et de concert, quelques billets de banque étrangers et de nombreuses photos sur lesquelles elle s'en donne à cœur joie avec ses amis, peut-être même un petit ami, étant donné les trois clichés plus grands, où elle figure seule avec un jeune homme qui la serre de très très près. C'est elle qui prend l'initiative. Comment voulez-vous que l'on procède ? Sa diction est claire, elle n'est pas impressionnée, au point que je me demande si, au-delà d'accepter ses cours, elle ne les a pas souhaités. Dites-moi d'abord où vous en êtes de votre programme et quels sont les points qui vous posent le plus de problèmes. On pourrait se dire tu si ça ne vous ennuie pas, ce serait plus facile pour moi. Vous n'avez quand même pas l'âge d'être mon père. Elle éclate de rire, et ce son-là ravive une émotion que je pensais disparue. Elle a exactement le même rire que sa mère, que la mienne. Je n'ai certes pas l'âge d'être son père, mais celui d'être son grand frère. Je la contemple comme une surprise, une belle surprise dans cet océan de doutes que je traverse seul sur ma coque de noix. Nous avons parlé de trigonométrie et de formules. Nous avons aussi évoqué en détail sa façon de poser des équations, d'aborder ses exercices et les maths en général. Je lui ai répété ce que le professeur Tanner m'avait lui-même enseigné. Bien poser le problème revient déjà à le résoudre en grande partie. Inès est une jeune fille très fine, vivante. Sa tendance à dévier sur l'humour lorsqu'elle est en difficulté me parle, et je la trouve vraiment drôle. A priori, ses parents ont réussi à lui donner confiance en elle, sans la réduire à sa seule beauté. Elle ne s'est pas construite là-dessus. En jaugeant sa faculté à jongler avec les chiffres, je ne suis pas certain que les matières scientifiques correspondent le mieux à sa nature, mais cela n'empêche pas qu'elle est, j'en suis persuadé, parfaitement capable de les maîtriser si elle le décide. Je pose des questions, je la regarde se frotter à quelques équations. J'analyse les rouages de son esprit qu'elle sollicite pour les résoudre. Cela me laisse le temps de l'observer. Finalement, nous sommes un peu de la même famille, et cette idée me plaît. Sur la terrasse, j'entends sa mère qui discute au téléphone. Je ne comprends pas tout ce qu'elle dit, mais il s'agit d'une conversation banale avec un ou une proche, des mots quotidiens qu'elle échange en toute simplicité. Cela me perturbe, sans doute parce que ses paroles mettent en évidence qu'elle a sa vie, dont ni moi, ni Julien, ni Papillot ne faisons partie. Là, infiltré dans son monde, auprès de sa fille, je n'arrive pas à lui en vouloir. Ce n'est ni de la faiblesse, ni du fatalisme, mais une évidence. À quoi bon lui révéler que je suis son fils ? Même si ma vie doit s'achever bientôt, ce n'est pas auprès d'elle que j'ai envie de me réfugier. Tout au plus, aimerais-je peut-être me blottir contre l'idée d'une mère, mais elle a tout fait pour ne pas y correspondre. Inès vient de triompher d'une équation qui lui avait pourtant valu de trébucher lors d'un récent contrôle. Elle semble se surprendre elle-même et je partage son enthousiasme. Excellent. Je décide de l'entraîner sur un problème plus complexe. À toi de jouer. C'est à ta portée. La prétendue difficulté des maths, c'est surtout l'idée qu'on s'en fait. Je devine une pointe de défi dans son regard. Elle se met à gamberger. Même si Inès ne va pas radicalement modifier son approche d'un coup de baguette magique, elle a déjà moins peur. Elle ne se dit plus que cette ligne sur sa feuille est un fauve qui va la dévorer. Elle tente de la dompter. Après quelques fausses pistes, elle parvient à trouver la solution. « Tu vois que tu en es capable. » Elle est visiblement satisfaite. Voici l'occasion d'approfondir son cas. « On ne va pas se mentir, Inès. » Il est évident que si tu veux, tu peux. Alors quoi? C'est par principe que tu n'aimes pas les maths? Je ne sais pas trop à quoi ça me servira. C'est un outil. Uniquement un outil. Tu sais ce que c'est, un marteau-piqueur? Elle est décontenancée et rigole à moitié. Oui, bien sûr. Ça aussi, c'est un outil. Mais il y a de fortes chances que tu ne t'en serves jamais. Elle rit encore. Pourtant, tu sais que ça existe. À quoi ça sert et comment ça fonctionne? En gros, oui. Si tu en avais besoin, tu saurais que c'est à ta disposition. C'est vrai. Alors considère les maths comme un marteau-piqueur. Apprends ce que c'est, comment ça marche, et tu décideras ensuite si c'est avec ça que tu veux travailler. Ne te prive jamais d'un outil. Celui-là est puissant. Moi, il m'a aidé à voir le monde autrement. À ce point? À ce point, que tu veuilles bâtir un refuge pour animaux ou aller faire du shopping sans te faire avoir, les maths peuvent t'aider. Aucun outil n'est inutile. Il faut juste décider s'il est adapté. Tranquillement, elle hoche la tête. J'aime bien ta façon d'expliquer. Merci, Inès. N'oublie jamais ceci. Quoi que tu veuilles entreprendre dans ta vie, ne te dis jamais que c'est impossible. Suis tes envies. Seuls ces élans-là comptent. Elle m'écoute, sereine. Mieux, je crois qu'elle m'entend. Ce regard que nous échangeons, avec la voix de sa mère en fond, est celui que pourraient partager deux véritables amis, ou un frère et une sœur. Je ne vais rien dire, je ne vais rien faire. Je vais simplement jouer le minuscule rôle qui est le mien à cet instant. Je n'ai pas envie de déséquilibrer la vie d'Inès en réveillant des histoires qu'elle n'a pas à subir. Le temps est passé trop vite.